Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de ce nouveau numéro de Métropolez-vous avec un petit salut spécial à ceux qui découvrent cette émission. Nous allons poursuivre notre série dédiée à la découverte des communes de la métropole toulousaine en parcourant leur histoire et en découvrant leur patrimoine et leur territoire. Après avoir commencé notre périple métropolitain à Blagnac, nous avons ensuite investi l'Est toulousain en visitant Flourens, Mons et Balma, ces communes aux confins du Lauragais et du Tarn. Retour maintenant à l'ouest de la métropole, sur des terres proches du Gers cette fois-ci, avec Pibrac, une commune voisine de Colomiers, Cornebarieux et Brax, dans l'immédiate périphérie de l'aéroport et des usines d'Airbus et autres équipementiers aéronautiques. Mais Pibrac, c'est aussi une commune au riche patrimoine et à l'histoire ancienne, marquée par plusieurs personnages illustres dont la réputation et la célébrité dépassent largement les frontières communales et même toulousaines. C'est donc à la découverte de Pibrac à travers les siècles que nous vous entraînons aujourd'hui. Et pour nous immerger dans les siècles de l'histoire pibraquaise, notre guide du jour va être Pierre Delapart, président de l'association Généalogie et Histoire de Pibrac. Bienvenue à vous aussi, monsieur le président. Merci d'être au rendez-vous. L'association que vous présidez existe depuis quelque temps déjà, depuis 2001 pour être précis, et elle a réalisé de nombreux travaux de recherche, dont certains ont fait l'objet de livres. Alors tout simplement, est-ce que vous pouvez nous présenter cette association, ses activités et bien sûr les publications qu'elle a fait paraître jusqu'alors ?
Au départ, c'était le cercle généalogique de Pibrac qui a permis à quelques accros de faire partager leur passion. Nous organisons des séances d'initiation et nous favorisons les recherches par l'échange d'expériences individuelles. Chacun progresse à son rythme à partir d'activités décentralisées, recherches sur Internet, utilisation de logiciels adaptés, mise en page et insertion de documents. Nous sommes une trentaine d'adhérents. Certains d'entre nous s'intéressent aussi à l'histoire locale et plus particulièrement à l'histoire du village. En 2011, notre association s'est élargie. Elle est devenue Généalogie Histoire de Pibrac. À côté de l'entraide généalogique personnelle, qui conserve toujours une place privilégiée, il nous apparaît très important de rechercher et de rassembler tous les documents du patrimoine local existant à partir de différentes sources d'informations, soit à la mairie, à l'église, dans les associations, dans les collections privées, car nous risquons des pertes irrémédiables. L'inventaire de ces pièces historiques permet, suivant leur intérêt, de les mettre ensuite à la disposition des pibraquais sous forme d'expositions, de publications ou de manifestations diverses. Notre seul but, bien sûr, étant la mise en valeur du patrimoine local dans l'intérêt de tous. En 2013, nous avons édité un premier livre sur la construction de la basilique Saint-Germain de Pibrac. Et actuellement, nous travaillons à l'écriture de l'histoire de Pibrac en 3 volumes dans la même collection. En janvier 2016, nous avons publié le premier livre, Des origines à la fin de l'Ancien Régime. Notre deuxième volume, qui est paru en septembre 2018, parlait de la Révolution et va jusqu'à la fin du XIXe siècle. Le troisième volume, qui évoquera le XXe siècle, est prévu pour septembre 2020. Les anecdotes du passé sont là pour nous rappeler que les racines de notre village ne sont pas détruites, elles sont seulement oubliées ou méconnues.
Voilà, donc vous faites un gros travail évidemment de recherche, mais alors vous allez encore plus loin, c'est que vous avez publié déjà 3 ouvrages, il y en a un quatrième qui va sortir d'ici moins d'un an, et là vous aurez vraiment balayé toute l'histoire de Pibrac, telle que nous allons faire au cours de cette émission. Eh bien merci donc pour cette présentation extrêmement précise de vos travaux et de vos publications à l'association Généalogie et Histoire de Pibrac. Ça nous plonge déjà dans le vif du sujet. Ça va être très précieux et ça va nous servir de base pour la discussion que nous aurons dans quelques minutes lorsque nous entrerons dans le détail de l'histoire de Pibrac, de la plus ancienne à la plus récente. En attendant, nous allons donner les dernières nouvelles de l'actualité métropolitaine grâce à Corinne Saint-Félix et son flash d'information hebdomadaire. Métropolez-vous, l'actu. Vous avez sans doute vu passer cette information qui fait couler beaucoup d'encre. Je parle de l'OPA sur l'entreprise Latécoère. Elle fait réagir aussi de nombreux élus, entre autres Jean-Luc Moudinc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole.
L'équipementier aéronautique Latécoère a été racheté par un fonds d'investissement américain. Lancé en juin, l'offre publique d'achat amical lancée sur l'équipementier aéronautique toulousain par le fonds d'investissement Searchlight a abouti. Il détient désormais 62% du capital de l'entreprise. l'entreprise. Le conseil d'administration de l'avionneur s'était positionné en faveur de cette OPA. Les représentants du personnel de Toulouse suspectaient, eux, le fonds américain de vouloir acquérir 90% du capital dans le but de sortir l'entreprise de la cotation à la Bourse de Paris. 17 députés ont d'ailleurs alerté le gouvernement sur cette OPA. C'était fin novembre. Le risque, selon eux, un pillage des technologies et un risque pour les 1500 emplois en Occitanie. Pour Jean-Luc Moudinc, pour Toulouse Métropole, l'avenir de la TECOR constitue un enjeu en termes tout à la fois industriels et d'emploi. La seule condition posée par le gouvernement, que soit rétrocédé par Searchlight, 10% du capital de la TECOR à un fonds français, ne suffira pas à éviter la fuite vers l'étranger de technologies telles que le LiFi, l'Internet par la lumière. La puissance publique doit prendre toute sa part et assurer ainsi un droit de regard sur l'avenir industriel de la TECOR et celui de ses salariés, a-t-il déclaré.
Une autre information très importante et attendue de longue date, le comité syndical de Tisséo a adopté le projet de troisième ligne de métro.
Oui, longue de 27 km, elle desservira 4 communes et reliera les principales zones d'activité de la métropole, de Colomiers en passant par Blagnac et Toulouse à la Bège, d'ici fin 2025. Cette ligne desservira les grands bassins d'emploi du nord-ouest et du sud-est de l'agglo, rapprochant les deux pôles de mobilité que sont la gare Matabiau et l'aéroport. Aéroport international de Toulouse-Blagnac. Le projet définitif a intégré les réserves et recommandations de la commission d'enquête publique. Elle avait donné un avis favorable au projet assorti de 2 réserves et 7 recommandations. Le projet définitif prend en compte les modifications préconisées après un dialogue avec les associations de quartier, les riverains impactés et les collectivités concernées, comme par exemple le déplacement à 150 mètres au nord de la station François-Verdier pour préserver l'alignement d'arbres ou encore l'amélioration de la configuration des pôles d'échange multimodal pour sécuriser les intermodalités et optimiser les trajets sur Colomiers-Gare, Sept-Deniers, Lavache ou là encore Labège-Cadenne. Coût total du projet de la troisième ligne de métro, 2,7 milliards d'euros.
Et puis pour finir, une information de saison, les animations de Noël dans la métropole fleurissent un peu partout, Corinne.
Eh oui, Toulouse Métropole vous invite à partager l'esprit de Noël en allant à la découverte d'une sélection d'animations organisées dans plusieurs communes du territoire, au programme spectacle, conte, projection, concert, goûter, marché de Noël et plein d'autres choses. De nombreuses animations sont prévues à Aucamville, la cabane du Père Noël a déjà ouvert ses portes samedi, idem pour le marché de Noël à Balma, les illuminations de Noël ont aussi eu lieu à Cugnot et Toulouse. Tout le programme des villages de Noël et marchés solidaires sont à retrouver sur le site internet www.toulouse-métropole.fr.
Voilà, c'était Corinne Saint-Félix pour son flash d'information hebdomadaire. Alors peut-être Pierre Delapart, une information qui vous concerne en tant que Pibraquais, donc habitant de l'ouest toulousain, c'est celle de la troisième ligne de métro dont le projet vient d'être adopté par le comité syndical de Tisséo. Alors, il est prévu qu'elle aille jusqu'à Colomiers, la commune immédiatement voisine de Pibrac. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que d'ailleurs vous avez participé un peu aux réflexions, aux réunions, il y a eu des réunions publiques
Oui, nous avons participé à ces réunions et nous sommes évidemment concernés puisque, vous savez qu'il y a des gros problèmes de circulation. Il faudrait que cette ligne de Colomiers soit prolongée jusqu'à Pibrac et même jusqu'à Brax. C'est très important pour nous parce que là, il y a de grosses difficultés vraiment de circulation. Évidemment, transformer aussi cette gare de Pibrac pour qu'il y ait davantage de stationnement et faire en sorte que ça roule un peu mieux. Surtout que l'on pense beaucoup urbanisation, mais on ne pense pas circulation.
Merci en tout cas pour votre réaction de citoyen pibraquais. Nous allons poursuivre ce numéro de Métropolez-vous tout de suite avec vous. Je rappelle que vous êtes président de l'association Généalogie et Histoire de Pibrac. Et vous allez avoir droit à la question rituelle lorsqu'il s'agit de découvrir l'histoire d'une commune. Quelle est l'étymologie, l'origine du nom Pibrac? À quelle époque la commune le prend-elle?
Alors, en 212... L'édit de Caracalla accorda le droit de citoyenneté à tous les hommes libres de l'Empire romain. Environ 2 millions de gallo-romains bénéficièrent ainsi du statut d'homme libre. Pibros en profita pour transformer son nom en Pibrus, Pibrius, gaulois latinisé, et son domaine devint Pibracum, puis Pibracum, lieu où vivait Pibrus. Peu à peu, le M final a disparu par amuissement, c'est devenu Pibracu, ainsi que le U final par simplification phonétique, et on a obtenu Pibrac.
Voilà, et ça, c'est donc ça remonte à assez loin finalement, hein, le nom Pibrac, qui n'a plus évolué depuis. Hein.
Pas du tout.
Maintenant, on va parler vraiment de l'histoire la plus ancienne. À quand remontent les premières traces repérées, avérées de présence humaine sur la commune? Je crois que c'est vraiment très ancien.
Oui, les premières traces d'occupation des terrasses de la Garonne remontent au Paléolithique inférieur. En 2004, lors de l'agrandissement de la RN 124, de nombreux objets lithiques ont été découverts près des berges de l'Ossonelle et entre les trois ronds-points d'aménagement à la sortie de Pibrac. Dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, des Celtes se fixèrent dans la boucle de la Garonne et fondèrent la ville de Tolosa. Le seul indice d'une occupation celte dans les environs de Pibrac nous est fourni par Simon Henry, qui confirme dans sa thèse que l'étymologie de Boucone ne laisse pas de doute sur son origine celtique.
Alors, à l'époque gallo-romaine, donc, on a des vestiges qui demeurent encore là-bas, ça peut être des ouvrages d'art comme des ponts, par exemple, ou des restes de villas romaines. Non, il n'y en a pas.
Pas du
tout. A priori,
tout
a disparu. En tout cas, s'il y a eu des choses, ou elles n'ont pas encore été trouvées, ou elles ont disparu. On arrive au Moyen-Âge. Alors, c'est souvent là qu'on commence à avoir le plus, évidemment, de traces et d'archives, de documents, éventuellement de documents écrits. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il y a la seigneurie, évidemment, le château. Ça remonte à vraiment au haut Moyen-Âge ou c'est après l'an 1000?
Au début du XIIe siècle, le castrum, ou fort de Pibrac, domine les vallées du Courbette et de l'Ossonelle. C'est l'ancêtre de notre village. Regroupé autour de l'église Saint-Sauveur, cette agglomération de maisons, probablement fortifiée et entourée de fossés, devait se trouver à l'emplacement de l'esplanade actuelle. Le premier acte qui mentionne la présence de ce castrum date de 1197. S'il ne reste rien des murailles et fossés d'autrefois, le cadastre de 1646-1649 nous précise la position des murs et de l'entrée du fort. La résidence d'un seigneur existait près de l'église. La place centrale du fort était entourée d'une vingtaine de maisons appartenant pour la plupart aux co-seigneurs ou notables locaux. Le reste de la population était installée en dehors du fort, sur les contreforts du promontoire.
Donc là, on est au XIIIe siècle, à peu près. Est-ce qu'il y a déjà à l'époque une seigneurie qui est installée, des seigneurs de Pibrac?
La première famille seigneuriale mentionnée dans des documents archivés est une famille de Pibrac qui apparaît à la fin du XIe siècle dans un acte de donation. À la fin du XIIIe siècle, presque tous les seigneurs locaux, et ce fut le cas des seigneurs pibraquais en 1289, donc tous ces seigneurs locaux cédèrent leurs droits à la famille de l'île Jourdain qui reçut le titre de comtal au XIVe siècle. Ses possessions étaient immenses. Une quarantaine de châteaux étaient vassaux de la famille. Tous les castrats de la vallée de l'Ossonelle, de Lias à Seille, de même sur la vallée de la Save jusqu'au confluent avec la Garonne. Une charte locale fut mise en place et appliquée ensuite à tous les villages placés sous le joug de la famille. Et c'est au début du XIVe siècle que Dame Tiburge, fille de Jourdain IV, baron de l'île Jourdain et vice-roi de Sicile, possédait environ la moitié des terres de Pibrac. Elle portait les titres de comtesse d'Astarac, seigneuresse de Lévignac et dame de Pibrac. En 1344, elle créa un monastère à Lévignac dédié à Sainte-Claire, où on trouvait les Clarisses. Et une petite parenthèse, c'est qu'en 1791, quand la municipalité a fait le partage de son territoire en 10 sections, une des sections portait le nom de quartier de la religieuse de Lévignac.
À quoi ressemblait la vie à l'époque? Là, on arrive au XIVe siècle. C'était, je suppose, essentiellement des paysans et ils travaillaient pour les seigneurs de Pibrac.
Oui, en ce XIVe siècle, la vie à Pibrac était essentiellement rurale. Les terres appartenaient à plusieurs seigneurs et leurs tenanciers avaient parfois beaucoup de difficultés pour connaître leurs véritables propriétaires. La population de Pibrac est estimée alors à 976 habitants. À partir du XVe siècle, une autre forme de société apparaît, non plus dictée par le rendement des terres, les terres à Pibrac étaient très pauvres d'ailleurs, mais par leur valeur spéculative. Les droits de mutation attiraient les riches familles toulousaines, acquirent et vendirent leurs terres au gré de leur fortune. C'est ainsi qu'en 1478, Jean Doux, conseiller au Parlement de Toulouse, acheta une partie de la juridiction de Pibrac. Son fils aîné, Jean, capitoul en 1501, acquit le titre de seigneur de Pibrac des suites de l'achat de nouvelles terres sur la juridiction. Sa fille, Gauzide, épousa Pierre Dufort Ier. Le contrat de mariage de Gauzide stipule que ses parents lui font donation de tous leurs biens, notamment de la seigneurie de Pibrac. De ce fait, c'est Guy Ier Dufort, leur fils, qui ajoute à son nom celui de seigneur de Pibrac en devenant l'héritier universel de sa mère. À cette date-là, la seigneurie de Pibrac est répartie entre la famille Dufort, les religieuses de Pibrac et les chevaliers de Saint-Jean. Ces deux derniers, les religieuses de Lévignac et les chevaliers de Saint-Jean, disparaîtront après la Révolution.
Alors Guy Dufort, vous avez prononcé son nom, là, c'est vraiment un personnage très important dans l'histoire de Pibrac et un peu aussi dans l'histoire de la région. Pour quelle raison en fait? Qu'est-ce qu'il a de particulier ce personnage et qu'est-ce qu'il va faire?
Alors Guy Dufort est né en 1528.
Il en est sous François Ier, pour situer, hein, pour que les gens se repèrent un peu.
Et à 12 ans, il part étudier en Italie, puis rentre à Toulouse, il obtient le titre de docteur en droit. C'est un écrivain. Ses 126 quatrains, traduits en plusieurs langues et enseignés dans les écoles, témoignent de ses talents. En 1558, son oncle lui cède ses fonctions de juge-mage de la ville de Toulouse et de mainteneur à l'Académie des Jeux Floraux. En 1562, Catherine de Médicis le choisit comme ambassadeur français au Concile de Trente, puis le nomme avocat général au Parlement de Paris. Après sa nomination comme conseiller d'État par Henri III en 1577, il devient chancelier de la reine de Navarre. En 1578, il accompagne Catherine de Médicis et la reine de Navarre pour concrétiser l'édit de pacification avec le roi de Navarre. Il meurt à Paris en 1584.
Alors c'est peut-être le moment qu'on parle du château de Pibrac, là, hein, puisque bon, il demeure aujourd'hui, hein, ce magnifique château, toujours habité par le comte de Pibrac, mais ce n'est pas la famille d'origine. Donc ce château, à quelle époque surgit-il tel qu'on le connaît aujourd'hui? Fin du 15e?
Fin du 15e, tout à fait. Alors en 1480, la famille Doux fait construire un petit manoir, un peu en contrebas du village, à l'emplacement actuel du château. Dans les années 1540, Pierre Dufort et Gauzide XII font transformer cette maison en faisant disparaître son caractère défensif et féodal, qui n'avait plus de raison d'être. Pour la région, le XVIe siècle rime avec opulence, richesse et prospérité, et ce grâce à la commercialisation du pastel cultivé dans tout le Lauragais. Ainsi, les marchands qui amassèrent des fortunes considérables rivalisèrent avec les riches familles locales. Dans toute la région fleurissent de splendides hôtels particuliers, Bagis, Assesa, et de nombreux châteaux, Saint-Jory, Pibrac, Castelnau de Strettefonds, par exemple. Les épaisses murailles de briques de la partie centrale furent percées et ajourées par d'élégantes fenêtres à deux étages de colonnettes. Aux angles, on éleva des tourelles rondes reliées par des galeries ajourées d'arcades et on édifia les aides latérales. Le château est agrémenté par plusieurs pièces remarquables qui font sa spécificité, notamment la Mirande, galerie à jour dont les larges ouvertures permettent à l'œil d'admirer la vallée de l'Ossonnel. Son plafond en bois se compose de moulures finement ciselées et des céramiques bleu pastel recouvrent les murs. Le cabinet des quatrains, qui est certainement le bijou le plus précieux de tout le château. Son raffinement est digne des plus riches demeures de l'époque. On y trouve rassemblées toutes les éditions des quatrains moraux écrits par Guy Dufort entre 1574 et 1576. Nous avons aussi le cabinet des dames, dont les peintures illustrent les personnages les plus en vue du temps d'Henri IV et de Louis XIII. Et puis, pour finir, le portail Henri IV, qui fut construit en prévision de la venue d'Henri de Navarre, seigneur de Léguevin et futur roi de France. Il ne vint jamais à Pibrac. Par contre, Catherine de Médicis et sa fille Marguerite furent reçues fastueusement par Guy Dufort. Le château resta en la possession de ses descendants jusqu'à l'extinction de la lignée en 1788. À cette époque, il advint par testament à la branche cadette qui le possède aujourd'hui. Il resta toutefois abandonné pendant près de 100 ans. À partir de 1873, le comte Anatole Dufort de Pibrac, séduit par le caractère du château, entreprend de le restaurer pour y installer sa famille. Sous l'impulsion de son fils Raoul, conseillé par les architectes Chambert, Esquet et Rocher, le château devient la demeure que l'on connaît aujourd'hui. Il est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1932 et le parc au titre des sites en 1944. Le portail d'entrée, ce qu'on appelle le portail Henri IV, est classé parmi les monuments historiques en 1947.
Alors, il faut qu'on précise que ce château donc est toujours habité par l'actuel comte de Pibrac. On peut visiter les jardins au moment des journées du patrimoine. En revanche, on ne peut pas visiter le château lui-même, bien entendu,
non,
puisqu'il est habité.
Alors, seulement une pièce, la salle des gardes, qui est ouverte pour les journées du patrimoine et où se font deux concerts, notamment par Vocalia.
Oui, voilà, donc le comte, de temps à autre, l'ouvre pour des événements culturels, mais c'est les seuls événements où on peut effectivement en profiter. Alors, je voulais qu'on arrive maintenant, vous avez parlé de l'époque de la Révolution française, 1788. Est-ce qu'il s'est passé des choses particulières à Pibrac sous la Révolution? Pas vraiment, je crois. Hein. Pas plus qu'ailleurs, en tout
pas
cas.
Pas plus qu'ailleurs.
En revanche, il s'est passé des choses sous l'occupation, notamment parce que là, il y a la forêt de Boucon n'était pas très loin, donc il y avait des maquis par là.
Oui, au cours de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux résistants ont été torturés et assassinés. Alors, ils étaient capturés, souvent pris à Toulouse, puis amenés dans la forêt de Boucon, où on les assassinait. Parmi eux, Forain-François Verdier, que tout le monde connaît, et sept jeunes qui souhaitaient rejoindre la résistance. Maurice Fonvieille aussi est mort au camp de Montaut-Saint-Guzin en 1945. Il avait été instituteur à Pibrac de 1927 à 1931. C'est lui, d'ailleurs, qui a inauguré la première école de Pibrac.
Alors, il y a eu un événement, je crois, un peu particulier. Enfin, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier aussi pendant la Première Guerre mondiale.
Pendant la Première Guerre mondiale, l'école des frères était fermée, les locaux étaient désaffectés et on en a profité pour ouvrir un hôpital militaire. Cet hôpital ensuite a reçu des combattants musulmans qui sont morts pour certains dans les locaux désaffectés. Ils sont enterrés dans le quartier militaire du cimetière de Pibrac.
Alors un personnage dont on n'a pas parlé, évidemment, qui est très attaché à la commune, c'est Sainte-Germaine. Peut-être raconter la petite histoire de Sainte-Germaine, à quelle époque a-t-elle vécu et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, d'abord il y a une basilique qui a été construite hein, et il y a un pèlerinage qui a lieu encore chaque année.
Germaine Cousin est née en 1579. En l'absence de documents décisifs, personne ne peut dire qui étaient ses parents. On sait qu'elle vivait dans la maison de Maître Laurent Cousin à Pibrac. Elle était très malade et elle est morte en 1601. En 1644, en creusant une tombe dans l'église, le fossoyeur découvrit sous les dalles le corps d'une jeune fille en parfait état de conservation. Les anciens identifièrent, grâce à la malformation de la main et aux cicatrices sur le cou, le corps de Germaine. Le premier miracle eut lieu quelques jours plus tard. Il faudra attendre plus de 200 ans pour que Germaine Cousin soit béatifiée. Après sa canonisation en 1867, les pèlerins vinrent nombreux grâce au train qui desservait le village. L'église Sainte-Madeleine ne pouvant tous les accueillir, il fut décidé de construire une nouvelle église. Les travaux commencèrent en 1901, entrecoupés par les deux guerres. Après moult péripéties, ils furent achevés en 1967. En 1939, les maisons entre les deux églises sont détruites. Elles sont ainsi reliées par une belle esplanade. En 2010, la basilique a été élevée au rang de basilique mineure. Elle devient ainsi la quatrième basilique mineure du département.
Alors on va parler de Pibrac au XXe siècle maintenant. Bon, on a déjà parlé de la Première Guerre mondiale, de la période de l'occupation. Et après-guerre, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'évolution de cette commune? Évidemment, comme beaucoup d'autres de la périphérie toulousaine, le visage de Pibrac a beaucoup changé durant notamment la période des Trente Glorieuses.
Oui, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la dépopulation en cours depuis 1901, Pibrac comptait alors 886 habitants, cette dépopulation fut accentuée par les pertes de la guerre et créa partout une pénurie de main-d'œuvre, dans les campagnes surtout, qui nécessita et justifia l'appel d'étrangers. À Pibrac, les principaux candidats à cette immigration furent les Italiens, qui, afin de fuir la misère ambiante qui régnait dans leur pays, se tournèrent vers des lieux plus favorables à la survie de leur famille. En 1936, des républicains espagnols choisirent l'exil et arrivèrent nombreux dans notre région. Mais cette arrivée de 200 étrangers eut du mal à compenser le déclin de la population. On ne compte que 829 habitants en 1946. Pendant les Trente Glorieuses, Pibrac va connaître un essor relativement important, accentué par l'arrivée des Pieds-Noirs. En 1975, la population passe à 2300 habitants. C'est le début d'une nouvelle urbanisation qui ne cesse de croître pour atteindre aujourd'hui 9000 habitants. Les nouveaux arrivants sont attirés par le charme du village et son passé historique, par la campagne environnante et la forêt de Boucone. Les proximités de Toulouse, de Blagnac et des usines d'Airbus sont un atout supplémentaire. Il faudra cependant rester très vigilant pour que ce charmant village ne perde pas son âme.
Oui, évidemment, parce que là, bon, 9000 habitants, je pense que vous allez atteindre les 10 000 prochainement. Sachant que c'est une commune qui est vaste, hein, le territoire est très vaste, donc bon, on pourrait dire qu'il y a encore de la place. Mais ce qui fait le charme et la qualité de vie de Pibrac, c'est que ben, on est immédiatement à la campagne.
C'est ça.
Je voulais pour terminer qu'on parle des prochaines échéances pour l'association Généalogie et Histoire de Pibrac. Qu'est-ce que vous allez proposer?
Oui, tout à l'heure, nous avons parlé des livres que nous avions écrits. Mais en 2018, nous avons organisé aussi une exposition pour commémorer l'armistice de 1918. À cette occasion, un document a été édité. Il rend hommage aux soldats de Pibrac, victimes de la Première Guerre mondiale. En avril 2020, nous devons faire une exposition sur l'école et l'écriture avec reconstitution d'une salle de classe et mise en situation des enfants. Nous travaillons beaucoup pour les enfants. Pour les Journées européennes du patrimoine, en septembre 2020, nous présenterons Pibrac au XXe siècle, dernier tome de la trilogie. Vous pouvez retrouver tous nos cours de généalogie, pour ceux qui sont intéressés, tous nos exposés et toutes nos publications sur le site internet pibrac-gh.fr.
Voilà. Eh bien, merci pour tout ce que vous venez de nous apprendre. Il faut conclure cette émission et je le redis, on a encore appris beaucoup de choses. Découvert de nombreux faits, de personnages, anecdotes historiques sur une des communes de la métropole toulousaine. Pibrac étant certainement une des plus intéressantes dans ce domaine. Une longue histoire, comme je le disais au début de cette émission. Merci beaucoup, Pierre Delapart, d'être venu partager avec les auditeurs de Métropole et vous tout le savoir et les connaissances accumulées par Généalogie et Histoire de Pibrac. L'association que vous présidez, qui a donc publié déjà 4 ouvrages sur la basilique et sur l'histoire de la commune, il y en a un qui, le quatrième, va sortir donc d'ici un an. Si vous voulez en savoir plus, avoir encore plus de détails sur tout ce que nous avons dit au cours de ce numéro, ou tout simplement vous procurer les livres en question, je vous invite à vous connecter au site de l'association, comme vous le rappeliez tout à l'heure. La semaine prochaine, nous devrions continuer notre découverte de la commune en consacrant un numéro à son territoire avec d'autres invités. Soyez donc à notre écoute. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Métropole et vous.
Métropole et vous.
Métropole et vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.